France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Et l'actualité en ce début de semaine, elle est d'abord marquée par l'annonce de Donald Trump. Il met finalement fin aux négociations avec les talibans en Afghanistan. Une rupture spectaculaire qui a fait réagir les talibans hier. Ils menacent de faire souffrir plus que tout autre les États-Unis. En fin de semaine dernière, un soldat américain était mort dans un attentat à Kaboul. C'est cette attaque qui a déclenché la décision de Donald Trump. Au Burkina Faso, 29 personnes ont été tuées hier dans deux attaques dans le nord du pays. Des renforts militaires ont été déployés sur place et des opérations de ratissage sont en cours. Un sommet exceptionnel des chefs d'État de la région sur la sécurité, justement, doit avoir lieu samedi prochain à Ouagadougou. On attend encore ce matin les résultats des élections locales en Russie. 85 régions sont concernées avec un enjeu principal à Moscou. Pour l'opposition, ce scrutin russe doit permettre de mesurer le soutien des habitants aux candidats pro-Kremlin et à Vladimir Poutine. Tout l'été, rappelons-le, des manifestations durement réprimées avaient été organisées pour réclamer des élections libres. À cette heure, les estimations d'abstention tournent autour de 80%. L'actualité en France, elle est notamment aux urgences. La semaine s'annonce déterminante pour la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Elle doit annoncer aujourd'hui de nouvelles mesures pour tenter de mettre fin à la crise dans les urgences qui dure depuis 6 mois maintenant. Et la ministre devrait promettre des moyens financiers pour des solutions pérennes. Plusieurs centaines de millions d'euros répartis sur 2 ou 3 ans. Cela servirait notamment à rouvrir des lits et à mettre fin à la tarification à l'acte. Ce plan sera présenté cet après-midi aux représentants des personnels et aux dirigeants hospitaliers. Et puis, combien de mètres doit-il y avoir au minimum entre les cultures traitées aux pesticides et les habitations en France ? Tout le monde peut donner son avis à compter d'aujourd'hui et pendant 3 semaines. C'est une consultation citoyenne lancée par le gouvernement qui a déjà donné ses préconisations, entre 5 et 10 mètres selon les types de cultures. Nous y reviendrons plus longuement dans le journal de 6h30.
Nouveau sur France Culture, la transition se conjugue au quotidien avec Hervé Gardette.
Réchauffement climatique, épuisement des ressources, érosion de la biodiversité, nous savons tous désormais à quoi nous sommes confrontés. Mais nous ne savons pas toujours quoi faire, ni comment. Pourtant, nos modes de vie sont en train d'être bouleversés par ce basculement. Tous les jours, dans les matins de France Culture à 8h45, je vous livre mes observations, mes réflexions et je vous fais part de mes lectures dans la transition.
Nouveau sur France Culture, la transition de lundi à vendredi à 8h45 dans les matins et sur franceculture.fr. Chaque semaine, une grande figure du patrimoine mondial. La Compagnie des œuvres sur France Culture. Mathieu Garrigou-Lagrange.
L'œuvre de Louise Bourgeois flirte avec la psychanalyse. Sa sculpture d'araignée géante est une ode ambiguë à sa mère, dont le métier était de tisser, et elle a consacré des œuvres plus ambiguës encore à la masculinité de son père. Morte en 2010, à 98 ans, cette franco-américaine est l'une des plus grandes figures de l'art du XXe siècle.
La Compagnie des œuvres, de lundi à jeudi à 15h et sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez bien France Culture pour commencer la semaine. Eh bien, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, le réveil culturel c'est tous les jours à 6h du matin à la radio ou quand vous voulez si vous êtes abonné au podcast de l'émission. Et tous les lundis on parle de l'actualité littéraire et en ce lundi 9 septembre je reçois l'écrivain Sylvain Prudhomme à l'occasion de la sortie de son roman Par les routes édité par l'Arbalète. Également présente avec nous ce matin Oriane Jeancourt du magazine Transfuge.
Le réveil culturel, lundi. Livre.
Y a-t-il un âge limite pour faire de l'autostop ? Ben non, cette question semble saugrenue parce que elle renvoie à un lointain passé. Est-ce qu'on fait encore de l'autostop aujourd'hui ? On peut se demander plutôt depuis quand ça ne se fait plus de faire de l'autostop. En tout cas, le personnage de votre dernier roman, Sylvain Prudhomme, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venu en stop ?
Non, non.
Bon, le personnage de votre dernier roman, Par les routes, est un autostoppeur. Il n'a d'ailleurs pas d'autre nom. Le narrateur, lui, un nom, Sacha,
voilà, un métier, écrivain. Et puis même un passé avec l'autostoppeur, c'était son ancien ami, son ancien colocataire, son ami de jeunesse ou de fac. Quand le roman commence, Sacha, le narrateur, vient s'installer dans la ville de l'autostoppeur. Il fait la connaissance de la compagne de son ancien ami retrouvé, Marie, traductrice de l'italien au français, et de leur fils Augustin, 9 ans. L'autostoppeur continue à faire de l'autostop, ou plus exactement, ne vit que pour ça. Partir seul, par-delà les routes, s'absenter pour rencontrer d'autres vies, d'une voiture à l'autre. Marie, qui ne veut pas être la Pénélope de l'autostoppeur, va finir dans les bras de Sacha. C'est un roman sur l'amitié, sur l'amour, sur le couple, sur la filiation, le passage à l'âge adulte.
Un peu tout ça. C'est vrai que l'autostop, ça paraît d'un autre temps, un peu. Moi, j'avais envie justement de jeter un personnage comme ça, un peu Don Quichotesque, un peu décalé par rapport à l'époque, de le jeter justement dans le monde d'aujourd'hui, sur les aires d'autoroute d'aujourd'hui, dans les voitures d'aujourd'hui, et de voir un peu quel choc ça provoquait, en fait. Il est non seulement autostoppeur, mais autostoppeur de 40 ans. Donc c'est vrai que il fait ça d'une façon très différente d'un autostoppeur de 20 ans, enfin.
Mais ça se fait plus. Je veux dire, et vous le dites bien, Sylvain Prudhomme, déjà, quand il avait 20 ans, les autos qui étaient stoppées ne s'arrêtaient que pour lui demander, mais vous faites encore de l'autostop? Est-ce que ça marche?
Alors, non, c'est vrai que maintenant, il y a Blablacar, et plein de gens m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas un livre où on parle de Blablacar plutôt que de l'autostop? Et, pour moi, c'est des choses absolument différentes le covoiturage, c'est formidable et c'est d'avenir pour la planète. Enfin, il faut absolument en faire, mais c'est pas du tout la même chose que la prise de risque n'est pas la même que l'autostop, où en fait on s'abandonne au hasard, on sait pas si on arrivera un jour, on n'a aucune garantie, on sait pas sur qui on va tomber. On n'a pas de commentaires avant ou après sur l'automobiliste qui va nous prendre pour savoir qui ce sera. Et donc, pour moi, ça dit beaucoup de choses de la vie, en fait, d'un abandon à ce que le hasard va mettre sur notre route. Et l'autostoppeur, il est autostoppeur un peu par métaphore, en fait. C'est-à-dire que c'est la figure de la disponibilité à ce qui vient.
Et pourquoi il n'a pas de nom, l'autostoppeur, dans votre roman, Sylvain Prudhomme?
Ça s'est imposé petit à petit à moi. Je voulais qu'il soit. Il est tout le temps. C'est un personnage qui est absent, qu'on voit revenir de temps en temps. On ne sait pas exactement ce qu'il fait quand il est absent. On voit des photos d'automobilistes qu'il envoie. Il envoie des cartes postales de noms de lieux qu'il traverse. Mais il doit rester mystérieux. Il faut qu'il. C'est son absence qu'il rend omniprésent pour ceux qui sont restés, en fait. Donc il fallait pas. Je sais pas comment dire un prénom tout de suite. Ça donne des contours presque sociologiques. C'est un indice trop fort. Moi, je voulais que ce soit l'autostoppeur, comme ça, avec sa part d'énigme.
Et l'autre énigme, c'est la ville. On sait qu'on est dans le sud-ouest. Elle n'est pas nommée, cette ville. Ou ce village, d'ailleurs. Cette petite ville ou ce village?
Petite ville. Elle s'appelle effectivement V, simplement, dans le roman. C'est-à-dire que dès qu'on nomme une ville, en fait, on se retrouve pris dans une question qui est de savoir. De décider d'en montrer un certain nombre de choses. Comment est-ce qu'on représente ce lieu, si c'est un lieu qui existe vraiment? Et là, c'était une question qui, pour moi, était secondaire. J'avais juste envie qu'on sache que c'était un endroit un peu périphérique, un peu éloigné de Paris, avec, du coup, une promiscuité plus grande, une douceur aussi, des rapports peut-être plus grandes. Et je voulais que ça, on puisse, que chacun puisse projeter, un décor, ça m'importait peu que ce soit telle ville plutôt que telle autre, même si évidemment j'ai pensé à une ville très précise pour le décrire.
Où vous vivez aujourd'hui?
Par exemple.
Par les routes, votre roman, Sylvain Prudhomme, est très bien écrit, il est très sensible. J'ai adoré le lire cet été, mais je dois vous avouer que j'ai eu du mal à le faire aimer. Parce que, allez résumer un livre pareil, hein, c'est l'histoire de deux amis, l'un va tomber dans les bras de la femme de son meilleur copain, de celui qui fut son meilleur copain. Alors déjà, on a une réaction morale en disant, mais comment ça peut être bien ça? Comment résumez-vous votre livre à vos amis, à vos proches?
Au début, je parlais beaucoup du fait qu'il y avait ce personnage qui allait sur les routes. Je disais, c'est un livre qui essaie de raconter la France vue comme ça depuis les.
Et
petit à petit, je me suis rendu compte que quand même le vrai sujet, c'était cette relation des trois personnages. Enfin, cette question amoureuse quand même qui est au centre. Je trouve que c'est beaucoup l'histoire de Marie, de cette femme qui est entre ces deux hommes, qui aime l'un d'abord pour sa liberté, pour son justement cette façon de cette vie aventureuse. Et petit à petit, elle se met à elle aime de sa liberté commence à la liberté de celui qui part sans cesse commence à devenir contradictoire avec la sienne à elle de liberté et elle est de plus en plus attachée à celui qui a la grande force d'être là, de rester. C'est Sacha. Et donc c'est quand même l'histoire beaucoup d'une femme qui aime un homme puis un autre homme. Je pense que c'est ça quand même le cœur du livre.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Les routes, le titre de votre roman est bien trouvé, ne serait-ce que parce que vous empruntez des routes inattendues. On vient de l'aborder, Sylvain Prudhomme. Le roman s'est lancé comme social quand on vous a déjà lu, quand on vous connaît un tout petit peu, quand on voit cet autostoppeur qui va sillonner la France des Formules 1, qui va dormir et rencontrer des gens qui dorment dans la rue, qui dorment dans leur voiture. On s'est dit, c'est un film social. Il va nous livrer la carte et le territoire de sa génération, de son point de vue, le cœur tout à gauche, mais pas du tout. Non, en fait, le vrai sujet est le faux triangle amoureux ou le triangle amical et amoureux entre Sacha, l'autostoppeur et Marie.
Pour moi, la dimension de description du pays, du territoire, elle est
là.
Pourtant. Elle est importante aussi, mais c'est vrai que enfin, c'est pas le moteur. C'est plutôt le. Disons que
c'est plutôt le décor et pas le sujet. Décor, et c'est pas le sujet.
C'est le décor et en fait, en plus, ça apparaît d'une façon ça apparaît à travers le regard de l'autostoppeur qui est absent. Donc c'est très fragmentaire. Ce sont des choses. Lui, il envoie du paysage. Il raconte des choses. Et donc on a des bribes comme ça d'espace traversé. Mais tout est vu du point de vue de ceux qui restent en fait. Donc ils reçoivent comme ça de temps en temps d'un personnage qui est un peu comme leur envoyé, leur explorateur. Ils reçoivent des bouts de la France comme ça. Mais j'avais envie que ça existe de cette façon en fait, à travers le prisme du regard de l'autostoppeur.
Nous étions jeunes et larges des peaux, bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again.
Ça ressemble à une chanson, votre roman, Par les routes, à Sylvain Prudhomme. Et bien sûr, on pense à cette chanson de Bernard Lavilliers. Partir sans prévenir, avec ou sans destination en tête, dormir dans les Formules 1 ou dehors, dans le froid, au pied d'un château d'eau, dormir sous la tente ou dans une voiture, manger une daube à l'improviste, raconter sa vie à des inconnus, recueillir les sentiments les plus intimes de ces centaines de conductrices et de conducteurs qu'il ne reverra sans doute jamais, c'est la vie de l'autostoppeur. On the road again, fuir le bonheur du foyer douillé de peur qu'il ne s'en aille, se baigner dans des rivières glacées et à l'heure des SMS et du net, continuer à envoyer des cartes postales ou des polaroïdes par la poste. Bah, enfin, il n'est pas dans son époque, votre autostoppeur, Sylvain Prudhomme.
Il a un côté, oui... Il a un côté récalcitrant, sans doute à la, comment dire, oui, il va un peu à contre-courant de beaucoup de tendances. Une des choses aussi qui m'intéressait avec cette vie aventureuse et avec ce recours à l'autostop, c'est le fait que il est plutôt quelqu'un qui est curieux des autres, qui postule que l'étranger, l'inconnu qu'on va rencontrer, qui va en plus, quelqu'un qui va ouvrir sa porte, la porte de sa voiture pour le laisser monter, et quelqu'un qu'a priori il a envie de rencontrer. Voilà. Donc il y a quelque chose aussi d'un mouvement vers l'autre, qui est peut-être aussi et d'un autre temps. Je sais pas par rapport. C'est vrai que notre époque, elle est, Il y a la peur, elle est beaucoup là, la peur. Tout le monde a un peu...
La peur de ne pas rencontrer les autres, de ne pas partager d'autres expériences.
Lui, il y a peut-être cette peur-là.
Et vous-même, Sylvain Pridon?
Bah, c'est un livre quand même là-dessus, sur la...
C'est parti de vous, cette idée de ce roman, Par les routes.
Je pense que c'est pas mal lié aussi au fait d'être depuis quelques années parfois loin de chez moi, enfin d'être beaucoup moi-même sur les routes, comme toujours plein de gens qui, quand on écrit des livres, on s'absente beaucoup, on fait beaucoup de rencontres fortes, on a des moments forts loin de chez soi et on se demande en même temps sans cesse si le vrai endroit, l'endroit le plus juste, la vie la plus pleine, ce serait pas d'être davantage auprès de ceux qui sont les plus proches, malgré tout, ceux qu'on aime. Les deux personnages, Sacha et l'autostoppeur, ils incarnent un peu un des deux pôles de cette dualité, de ce déchirement qu'on a tous. En fait, c'est quelque chose qu'on a. Moi, je parle de moi, mais on a tous cette tentation à la fois d'une sorte d'idéal d'écouter l'instant, en fait, d'être au plus près de ce que l'impulsion du moment voudrait nous faire, et en même temps de pas faire défaut à ceux qui nous sont chers. Donc il y a ce tiraillement vous parliez de chansons où on a écouté Bernard Lavilliers. Il y a une autre chanson qui était centrale pour moi dans le livre, c'est la chanson de Leonard Cohen.
Absolument.
Le Famous Blue Raincoat, où qui est une lettre en fait à un ancien ami qui un jour a eu une histoire avec Jane, la compagne de Leonard Cohen, dans la chanson, et il l'appelle à la fois son frère et my brother et my killer. Et il y a toute une théorie selon laquelle cette chanson est peut-être une adresse de Leonard Cohen à lui-même. Peut-être que cet ami un peu insolent, un peu fougueux, qui avec lequel Jane a failli partir un jour, c'est peut-être que c'est seulement Leonard Cohen plus jeune, celui d'autrefois, qui était comme ça davantage que celui plus assagi d'aujourd'hui.
Sylvain Prudhomme, le narrateur de votre dernier roman, Par les routes, Sacha vous ressemble a priori, hein, parce qu'il est romancier, et il va avoir 40 ans, vous-même, vous venez d'avoir 40 ans cette année, c'est votre 7e, 8e roman. Oui, c'est ça, hein,
ouais, je pense.
Qui ressemble pas du tout à vos autres livres, hein. Ce roman, il est très très particulier, hein. Vous avez parlé de l'Afrique, parce que vous avez vécu là, vous avez parlé aussi de votre histoire familiale à travers ce très beau livre sur la guerre d'Algérie. On pourrait peut-être même les citer, vos livres, par exemple un livre consacré à un groupe mythique en Afrique, comme avait dit Bailly, c'était ça?
Oui, les grands sur le groupe de
l'avait dit Bailly,
c'est sur l'Algérie, voilà, vous parliez, ouais.
Sur l'Algérie, là on a l'impression que derrière ce triangle amoureux se pose quand même la question comment passer à l'âge adulte.
Je pense aussi que c'est central dans le livre, enfin cette question de grandir ou accepter que la vie est... je sais pas, qu'on a fait un... Disons que vers 40 ans, on a fait un certain nombre de choix, les choses sont... On a pris des chemins déjà, tout n'est plus... on n'est plus simplement en devenir, il y a un certain nombre de choses qui sont derrière soi, qui sont posées on peut encore changer plein de choses, je pense que
il est angoissé, il a 40 ans.
Pas du tout, mais je veux dire, je sais pas. En tout cas, c'est un moment de forcément, on s'interroge sur ce qu'on a posé jusque-là, en fait, et bien sûr que c'est un livre autour de ces questions-là.
Et la littérature est très présente aussi dans ce livre. Vous pouvez même dire du mal de Philippe Roth, hein, qu'il y a des moments où on peut ne pas aimer des auteurs qu'on adore par ailleurs.
Alors là, c'est vrai que moi, je parle beaucoup. Comme Sacha est écrivain, il parle beaucoup de livres qui l'accompagnent, en fait.
Donc, Marie est traductrice, hein.
Voilà, et Marie est traductrice en plus, exactement. Et ils sont tous les deux. Marie, elle traduit un auteur que j'aime énormément, qui s'appelle Marco Lodoli. Et Les Promesses de Marco Lodoli, pour moi, c'est un livre qui m'a énormément bouleversé. Et j'ai décidé qu'elle le traduirait, tout simplement. Et comme ça, je peux parler de ce livre, en fait.
Et pourquoi ce livre vous a marqué?
Je sais pas, c'est toujours des personnages qui regardent passer la vie, qui sont comme suspendus au-dessus de la vie et qui regardent passer la vie des autres. Ils sont comme des anges un peu en dehors du temps. Et les livres de Marco Lodoli racontent toujours eux sont les témoins du passage des autres. Et ça, je crois que c'est ce que j'aime raconter moi toujours, la façon dont on grandit, on on vit un certain nombre de choses, on a des choses qui réussissent, on réussit des choses, on en rate d'autres, et puis petit à petit on vieillit, on passe, on meurt. Et Marco Lodoli raconte ça avec une douceur, une empathie, et en même temps, il y a la musique de la vie, quoi, que je trouve vraiment, je trouve ça magnifique.
Et Philippe Roth?
Alors Philippe Roth, moi je dis pas de mal hein, de Philippe Roth dans ce livre-là parce que je sais est-ce que c'est en tout cas moi Philippe Roth un homme par exemple un de ses derniers livres c'est un livre que j'aime beaucoup
qu'on peut traverser une crise où même son auteur favori devient encombrant. Je trouvais que c'était une bonne idée. Il faut oublier les auteurs qu'on aime quand on écrit.
On est l'auteur qu'on est. Il faut essayer de faire les livres qui sont les nôtres qu'on peut faire et pas se laisser effectivement écraser ou de toute façon on fait ce qu'on peut hein voilà.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Nel suo posto in riva al fiume, Susan ti ha voluto accanto. E ora ascolti andar le barche, ora puoi dormirle al fianco. Sì, lo sai che lei è pazza, ma per questo sei con lei. E ti offre il tè e le arance che ha portato dalla Cina. E proprio mentre stai per dirle che non hai amore da offrirle, lei è già sulla tua onda e fa che il fiume ti risponde che da sempre siete amanti. E tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente, perché sai che le hai toccato il suo corpo perfetto con la mente. E Gesù fu un marinaio finché camminò sull'acqua e restò per molto tempo a guardare solitario dalla sua torre di legno e poi quando fu sicuro che soltanto agli annegati fosse dato di vederlo disse siate marinai finché il mare libererà. E lui stesso fu spezzato, ma più umano abbandonato, nella nostra mente lui non naufragò.
On écoute Leonard Cohen dans le dernier roman de Sylvain Prudhomme, par les routes, enfin les personnages écoutent Leonard Cohen, ou même Fabricio De André qui reprend un tube là de Leonard Cohen, comme il a repris Ferré, Brassens. Bonjour Oriane Joncourt.
Bonjour à vous deux.
Bon, ben ravi de vous retrouver en forme. Mais
oui,
pour
moi
une
aussi.
Nouvelle saison.
Alors je voulais absolument dire quand même que là d'où je viens, et là où j'étais cet été, on fait de l'autostop.
Ah, c'est
absolument, j'étais en montagne pour les randonneurs dans le Jura, dans les Alpes, on fait de l'autostop. Et l'été, on fait beaucoup d'autostop.
À n'importe quel âge, ça passe.
Et je reconnais qu'ils sont un peu plus jeunes que 40 ans, mais...
Par les routes, donc, de Sylvain Prudhomme est édité chez l'Arbalète. C'est notre coup de cœur. Et on va continuer avec les coups de cœur du magazine Transfuge et avec vous, Auriane Joncourt.
Alors, écoutez, les coups de cœur français, puisque vous savez qu'à Transfuge, nous suivons la littérature française et étrangère avec la même passion. Mais en français, j'ai beaucoup aimé le roman d'Olivia Rosenthal.
Éloge des bâtards, c'est chez Vertical.
Oui. Alors, Olivia Rosenthal, bon, c'est quelqu'un qu'on suit depuis longtemps. Et elle a cet art assez exceptionnel de se réinventer à chacun de ses livres. À chaque fois, elle nous surprend. À chaque fois, on se dit, tiens, elle est en train d'emprunter cette voix, et non, elle va complètement ailleurs. Et Éloge des bâtards ne faillit pas à la règle, puisque Éloge des bâtards, c'est une sorte de conte, un conte choral, puisqu'ils sont 9-10 voix, tous des bâtards, tout est dit dans le titre, c'est-à-dire des orphelins devenus adultes, qu'on découvre réunis dans une ville, peut-être Paris, sans doute Paris dans 20, 30, 40 ans, on est dans une sorte de conte fantastique, de science-fiction, la ville est en train de se désagréger, donc on est dans des lieux, des sortes de no man's land, dans des lieux, parfois des parcs, parfois sous des ponts, parfois au bord des autoroutes. Et donc, ces gens qui se connaissent mal, eh bien, se retrouvent dans une sorte de groupe et racontent leur histoire. C'est ça que je trouve très beau, et c'est un peu aussi le cas de votre personnage, Sylvain Prudhomme, c'est-à-dire qu'ils accomplissent ensemble cet acte gratuit, ces inconnus, de raconter leur histoire. Et chacun raconte son histoire. Alors, l'un vient par exemple d'Algérie, l'autre est né en France, l'autre est d'origine juive allemande, enfin, ils ont tous des histoires différentes, l'un vient de la bourgeoisie, l'autre est prolétaire, enfin, c'est vraiment des histoires absolument différentes, mais ils ont tous en commun d'être, de se nommer, de se revendiquer comme des bâtards. C'est-à-dire que ce sont ou des véritables orphelins, elle a des pages où elle décrit la DAS, c'est assez bouleversant, ou ce sont des gens qui n'ont pas connu leur père, ou ce sont des gens qui ont été exilés, par exemple, cet enfant d'Algérie que les parents ont abandonné, mais l'ont-ils abandonné, ou ont-ils été arrêtés, ou ont-ils dû partir, on ne sait pas, mais en tout cas cet enfant qui se retrouvait à 8 ans dans un hôtel à Marseille tout seul, et qui a dû construire sa vie en ne sachant pas pourquoi ses parents ne sont jamais revenus le chercher. Vous voyez, il y a toutes sortes d'histoires comme ça. On est dans un univers très enfantin, un peu à la Tom Sawyer, avec ces figures de gens qui ont dû se construire, parfois dans des situations extrêmement difficiles, avec des beaux-pères violents, mais qui ont dû s'inventer une identité. Et ça, je trouve que ces personnages, ces voix, puisque donc c'est un roman à 10 voix, c'est extrêmement puissant, et ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ça dans la littérature française.
Éloge des bâtards d'Olivia Rosenthal, c'est chez Vertical. Et là, on passe à un autre coup de cœur de Dorian Jeancourt de Transfuge, c'est le dernier roman de Luc Lang, La Tentation, chez Stock.
Oui, alors là, on est dans un roman, je dirais, plus classique. Vous parliez de Philippe Roth, c'est un peu un roman, ça pourrait être Philippe Roth à la française, puisque on est face à un homme de 50 ans, un homme de pouvoir, un homme installé, un grand médecin. Et le livre commence, il est chasseur. Il vit près de Lyon, donc il est dans les montagnes. Il fait face à un cerf, c'est donc un chasseur de gros bestiaux, comme ça. Pardon pour mes mots, je suis pas une experte de la chasse. Et donc il fait face à un cerf, et pour la première fois de sa vie, il n'arrive pas à le tuer. Et donc, il va le blesser, et ensuite il va faire cette chose invraisemblable. Il va lui tirer dessus, puis il va le soigner. Et puis il va. Et ça, c'est cette très longue scène d'ouverture qui va expliquer l'état d'esprit dans lequel est plongé cet homme qui a entre 50 et 60 ans, qui voit la mort arriver, qui se sent d'une certaine manière plongé dans une forme d'impuissance, qui est le vieillissement, qui est aussi l'incompréhension face au monde qui l'entoure, qu'il a aussi un problème avec sa femme. Qui le quitte, qui revient parce que c'est une mystique. Et voilà, et donc c'est un très beau portrait d'homme au troisième temps de sa vie, si je puis dire.
Charles Dantzig, le dictionnaire égoïste de la littérature mondiale, qui paraît chez Grasset, fait partie aussi de vos coups de cœur, Auriane Jeancourt.
Oui, alors ça c'est un essai. Charles Dantzig, vous savez, a l'art de transmettre ses goûts littéraires. Il l'a fait pour la littérature française avec beaucoup de virtuosité. Et bien là, il le fait dans ce livre monstre qu'il a pris, je crois, plus de 12-13 ans à écrire, où il raconte toute la littérature qu'il aime, la littérature étrangère. Donc, ça va de la littérature antique à la littérature américaine. Il n'hésite pas à égratigner aussi. Il fait ça toujours aussi avec beaucoup d'humour. Il égratigne Hemingway. Il fait une relecture très personnelle de Shakespeare, il dit son avis sur Ovid, enfin voilà. C'est une merveille pour plonger dans la littérature.
Le dictionnaire égoïste de la littérature mondiale qui paraît chez Grasset de Charles Dantzig, La Tentation de Luc Lang chez Stock, et puis Éloge des bâtards chez Vertical d'Olivia Rosenthal. Peut-être un premier roman très rapidement, parce qu'il y a eu de très bons premiers romans sortis cette année.
Il y a de très bons premiers romans, on consacre un article, et il y en a un que j'ai beaucoup aimé, de Lou Rui Fang, chez Actes Sud, qui s'appelle L'Imprudence et qui est l'autoportrait d'une jeune femme en quête de ses origines au Vietnam. C'est très très bien écrit, c'est très fin.
On retrouve bien sûr vos coups de cœur à la page du Réveil Culturel sur franceculture.fr, et puis bien sûr Par les routes de Sylvain Prudhomme, mon invité ce matin aux éditions L'Arbalète chez Gallimard. Merci d'être venu. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la sélection? Est-ce que ça vous donne envie de lire tous ces livres? D'autant plus que la plupart des auteurs, vous avez dû les rencontrer. Si ça se trouve, vous les connaissez, Sylvain Prudhomme.
Oui, j'ai très envie de lire le livre d'Olivia Rosenthal et celui de Luc Lang aussi qui me... Oui, ça me fait très envie, là, la description.
Merci Auriane, merci Sylvain Prudhomme.
Le Réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Décadence numéro 2 de Michel Onfray, conquête et acquisition. L'Empire romain converti au christianisme voit naître une religion d'État et de conquête. Dans ce deuxième et dernier volume de Décadence, Michel Onfray nous dépeint cette époque où même la philosophie se met au service de la foi pour expliquer, justifier et transmettre les mystères divins.
Il y a donc un moment dans l'histoire où apparaît le sens de l'histoire.
Décadence de Michel Onfray, l'ultime coffret du cycle Brève Encyclopédie du Monde. Un coffret de 14 CD, coédité par France Culture et l'Université Populaire de Caen.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. 3, 5, 10 mètres ou plus, quelles distances doivent être respectées entre les habitations en France et les zones d'épandage de pesticides? Une consultation est lancée aujourd'hui. Les agriculteurs et les militants écologistes ont déjà leur avis, tout comme le gouvernement, vous l'entendrez dans un instant. Nous irons ensuite en Afghanistan où les négociations entre talibans et américains ont été annulées sur ordre de Donald Trump. Les talibans ont menacé hier Washington. Et puis, que va faire Boris Johnson à Dublin aujourd'hui, négocier une sortie de l'Union européenne avec ou sans frontières irlandaises. Notre correspondante au Royaume-Uni fera le point pour nous sur les solutions britanniques en ce début de semaine. Et voici donc une nouvelle consultation des Français. Elle débute aujourd'hui et concerne l'épandage de pesticides. Faut-il respecter une distance de 5, 10, 100 mètres entre les habitations et les zones touchées par ces pesticides? Chacun peut donner son avis sur Internet. L'arbitrage officiel lui sera donné fin novembre, mais la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne, avant même le début de la concertation, a déjà une idée très précise de ce que doivent être les distances entre les cultures et les habitations. Elisabeth Borne.
Les distances, elles sortent pas d'un chapeau. C'est celles qui ont été préconisées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. C'est donc des avis scientifiques. Donc il y a deux chiffres qui ont été avancés par l'ANSES. 10 mètres pour les cultures hautes et 5 mètres pour les cultures basses. C'est ce qui sera proposé dans les documents mis en consultation. Et on pourra les adapter localement dans le cadre de charges.
10 mètres ou 5 mètres, un arbitrage minimaliste selon les écologistes et les associations qui aimeraient une distance plus grande. Un arbitrage surtout inutile, disent de leur côté les agriculteurs. Voici le reportage de Victor Vasseur en Haute-Loire.
La première réaction de Daniel, c'est de lever les yeux au ciel.
C'est une grande bêtise.
Cette proposition, cet agriculteur de Haute-Loire et son ami ne veulent pas en entendre parler.
Mais à l'origine, il n'y avait que de la terre agricole, il n'y avait que des agriculteurs, il n'y avait pas de ville, il n'y avait pas de lotissement, il n'y avait rien. Mais c'est pas nous qui allons les empoisonner. On leur demande rien, on leur a pas dit de venir.
Une fois de plus, ce sont les agriculteurs qui sont pointés du doigt, déplore Johan, 22 ans.
Ça va changer quoi, 5 à 10 mètres, un petit coup de vent et hop, ça va voler pareil. S'ils nous trouvent une solution qui marche, en face, ben pourquoi pas. Mais le problème, c'est que c'est pas forcément le cas.
Mais pour les associations de défense de l'environnement, séparer les maisons des champs de 5 à 10 mètres, ce n'est pas assez. Renaud est militant chez France Nature Environnement en Haute-Loire.
Ce qu'il faut savoir, c'est des produits qui sont très très volatiles et qui se déplacent très rapidement. Alors on a beau interdire le passage de pesticides en période de vent, mais on a tous vu des agriculteurs continuer à mettre des pesticides, même quand il y a du vent, donc ça reste assez dramatique.
Pour éviter d'enflammer le débat, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, propose du cas par cas. La mesure pourrait être adaptée en fonction de chaque commune.
C'était Victor Vasseur de France Bleu Saint-Étienne-Loire pour France Culture, Victor Vasseur. Au grand mot, y aura-t-il des grands remèdes? La ministre de la Santé doit présenter cet après-midi un plan d'action avec un budget dédié pour régler la crise dans les urgences qui dure depuis bientôt 6 mois. La primeur de ces annonces sera réservée à partir de 15h aux représentants des personnels et aux dirigeants hospitaliers qui sont reçus au ministère de la Santé. Mais déjà, le quotidien Les Échos croit savoir ce matin que l'enveloppe s'élèverait à 600 millions d'euros répartis sur 3 ans. Ce lundi, le président Emmanuel Macron reçoit, lui, à l'Élysée, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, en pleine consultation sur la réforme des retraites. La rencontre aura lieu à midi. Voilà ce qu'indique l'agenda du chef de l'État, qui ne précise pas le thème du rendez-vous. La République En Marche revendique un succès. Le parti présidentiel a tenu ce week-end son campus des territoires à Bordeaux, une université d'été qui ne dit pas son nom. 3500 personnes environ y ont assisté, des militants, adhérents, des cadres du parti et des membres du gouvernement. Le Premier ministre est venu hier après-midi clore cet événement et Édouard Philippe en a profité pour faire taire une rumeur le concernant à quelques mois des élections municipales.
Il m'est arrivé récemment qu'on me dise « Édouard, tu devrais aller te présenter à tel endroit ». On me l'a dit « Benjamin, à Paris ». Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a déjà un excellent candidat investi par La République En Marche à Paris. Il s'appelle Benjamin Griveaux. Il est là. C'est lui. Et une deuxième raison, c'est qu'on n'est jamais candidat ailleurs qu'à l'endroit où l'on est enraciné, à l'endroit qu'on a dans son cœur, dans sa tête et dans ses tripes. Et moi, mesdames et messieurs, mes tripes, elles ont un goût d'eau salée. Si un jour, notez bien, si un jour je devais être candidat au municipal, je ne vois pas très bien où cela pourrait être ailleurs qu'au Havre.
Des propos recueillis par Rosalie Lafarge que nous retrouverons à 7h24 tout à l'heure pour le reportage de la rédaction tourné lors du campus du parti La République En Marche à Bordeaux ce week-end. Il est 6h35 et nous poursuivons ce journal sur France Culture avec l'actualité internationale et la fin annoncée des négociations de paix entre talibans et américains. La décision a été prise par Donald Trump ce week-end après une attaque à Kaboul ayant notamment tué un soldat américain. Le gouvernement afghan, qui était exclu des discussions de paix à Doha depuis le début, a rapidement exprimé son soulagement. Les talibans, eux, ont mis plusieurs heures avant de répondre et ils ont finalement menacé les États-Unis, Sonia Ghezali.
Cette décision portera préjudice aux États-Unis plus qu'à quiconque ont réagi les talibans dans un communiqué. Nous poursuivrons le djihad et nous en sortirons vainqueurs, ont-ils écrit, ajoutant des centaines d'Afghans sont tués dans les frappes aériennes menées par les États-Unis. Réponse à la décision de Donald Trump de mettre fin aux négociations après l'attaque de jeudi dernier à Kaboul. Les talibans disent être persuadés que les États-Unis reviendront à la table des négociations. Selon certains observateurs, Donald Trump a cédé aux pressions internes. De hauts responsables américains ont récemment exprimé leur désaccord sur l'accord de principe tel qu'il était rédigé. Donald Trump a trouvé un prétexte pour remettre en question le texte de l'accord de principe et mettre ainsi plus de pression sur les talibans pour les forcer à faire plus de compromis. Plusieurs analystes doutent que Donald Trump ne change pas d'avis une nouvelle fois au regard des mois d'efforts et de discussions entrepris en vue d'un accord. D'ailleurs, Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, a déclaré que les États-Unis n'excluaient pas une reprise des négociations avec les talibans à condition que les insurgés changent d'attitude et respectent leurs engagements.
Sonia Ghezali, correspondante de RFI à Kaboul pour France Culture ce matin. La Russie attend les résultats des élections locales qui s'y sont déroulées hier. Après les manifestations hebdomadaires de cet été à Moscou, la question est toujours de savoir combien de candidats pro-Vladimir Poutine ont été élus. La Russie où se rendent par ailleurs aujourd'hui le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et la ministre des Armées Florence Parly. Ils vont rencontrer leurs homologues et tenteront un rapprochement, une première depuis la guerre de Crimée en 2014. Les députés britanniques doivent décider aujourd'hui s'ils veulent ou non des élections anticipées, comme l'avait demandé le Premier ministre. Boris Johnson, lui, aujourd'hui, va se rendre à Dublin. Il doit rencontrer son homologue irlandais. Et la question du retour d'une éventuelle frontière physique divise toujours. Alors, que peut obtenir le Premier ministre britannique, Emmeline Vint ?
Officiellement, Dublin refuse de parler de rencontres bilatérales. Les négociations ne peuvent se tenir qu'entre Londres et Bruxelles. En revanche, Boris Johnson pourra faire valoir son point de vue, expliquer quel genre de relation il souhaite entre la Grande-Bretagne et sa voisine irlandaise. Ce week-end, le Premier ministre irlandais Leo Varadkar n'espérait d'ailleurs rien de plus.
C'est la première fois qu'on se rencontre en tant que Premier ministre. C'est une occasion d'établir une relation personnelle, de parler de nos opinions respectives sur l'accord de retrait.
Ce dimanche, Leo Varadkar a aussi ouvert la porte à un aménagement du backstop que Boris Johnson voudrait supprimer. Les deux hommes pourraient évoquer la possibilité d'un filet de sécurité pour l'Irlande du Nord uniquement et non pour l'ensemble du Royaume-Uni. Mais Boris Johnson arrive à Dublin en position de faiblesse et ça, Leo Varadkar en a bien conscience, il l'a souligné auprès de la presse ce dimanche. Le Premier ministre britannique va surtout devoir convaincre son homologue qu'il peut lui faire confiance après avoir perdu sa majorité au Parlement.
C'était Emmeline Vin à Londres pour France Culture. Notons enfin cette possible démission. Le directeur général de Nissan, éclaboussé par une affaire de prime indûment perçue, compte quitter prochainement ses fonctions, selon plusieurs médias japonais ce matin. Le conseil d'administration du groupe Nissan doit examiner aujourd'hui les conclusions d'une enquête interne. De nouvelles pluies arrivent par le nord-ouest ce lundi en France, du nord de l'Aquitaine jusqu'aux Hauts-de-France, en balayant la Bretagne et la Normandie. Ailleurs, après de belles éclaircies ce matin, les nuages seront bien présents dans l'après-midi. Côté température, comptez 13 degrés dans la matinée à Besançon, 14 à Lille, 15 degrés à Rennes et Paris, 16 à Bordeaux et Lyon, 23 degrés ce matin à Nice. Il est 6h40, voici
pile poil
bravo. Pour vous accueillir Jacques Meunier avec
vous
votre
vous commencez
journal
bien
visité.
La semaine Clara Le Coq-Réal.
Avec le sourire surtout Jacques. Et on le disait dans le journal, les ministres français des Affaires étrangères et de la Défense vont se rendre aujourd'hui à Moscou. Oui. Ils vont participer à une réunion du comité consultatif de coopération et de sécurité.
Oui, et comme le rappelle Marc Semaux dans Le Monde, il n'y en avait pas eu depuis 5 ans. Cette structure 2+2 avait été mise sur pied dans les années 1990 pour renforcer les liens, y compris sur le terrain militaire, avec une Russie que l'on pensait alors réellement engagée dans la voie de la démocratie. Elle avait été gelée au printemps 2014 après l'annexion de la Crimée. Jean-Yves Le Drian expliquait ainsi cette volonté de relance du dialogue le 3 septembre devant l'Association de la presse diplomatique. La défiance ne sert finalement à personne, même si les raisons qui l'ont alimentée, l'Ukraine, la Syrie, les assassinats à l'arme chimique, les cyberattaques sont toujours là et le dialogue se doit donc d'être exigeant. Tenter de le renouer, d'ailleurs un objectif constant pour le président de la République, réaffirmé lors de sa rencontre avec le président russe au fort de Brégançon ce 19 août. Mais il faut pour cela que les intentions soient claires de part et d'autre. Dans les pages idées du Monde, Michel Etchalinov et Bruno Tertrais décryptent la diplomatie de Vladimir Poutine et mettent en garde contre l'illusion d'une nouvelle architecture de sécurité en Europe. Le philosophe et le politiste relèvent la référence appuyée du président russe à Egon Bahr, qui fut un très proche conseiller du chancelier Willy Brandt et l'un des principaux inspirateurs de l'Ostpolitik, la politique de rapprochement de l'Allemagne fédérale avec la RDA et l'URSS dans les années 1970. Egon Bahr considérait que la construction européenne était secondaire par rapport à la réunification des deux Allemagnes. Il développa le concept de système de sécurité européenne et participa activement à l'élaboration et la signature du traité de Moscou de 1970, accord bilatéral de renonciation à la force. En reprenant tel quel un plan stratégique soviétique pour une Europe qu'il n'a pas vu changer, Poutine engage bien mal le dialogue. D'abord, qui voudrait revenir à la géopolitique des 19e et 20e siècles et à la définition de sphères d'influence en Europe? Probablement personne, sauf Moscou, où l'on évoque avec nostalgie le pacte Molotov-Ribbentrop d'août 1939, dont l'annexe secrète divisait l'Europe. Par ailleurs, les conditions d'un rapprochement reste nébuleuse. Je cite « La Russie a foulé aux pieds les normes communes de comportement en Europe en s'attaquant à la Géorgie et à l'Ukraine, en annexant la Crimée. À Vienne, les représentants russes n'ont de cesse de renier les prérogatives de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, et d'en contester les règles. Comment lui faire confiance pour en respecter de nouvelles ?» Conclusion, le projet d'une nouvelle architecture de sécurité européenne est aujourd'hui une chimère au sens propre, un hybride d'obsession soviétique et d'angélisme occidental, et au sens figuré, un objectif hors d'atteinte. Michel Etchalinov et Bruno Tertrais évoquent un autre chantier, plus fécond, la stabilité stratégique sur le continent, au vu des nouveaux déploiements de missiles russes et des réponses occidentales possibles. Il est vrai que la Russie semble avoir amorcé un processus de détente en Ukraine avec le récent échange de prisonniers de part et d'autre. Parmi eux, côté ukrainien, figure le cinéaste Oleg Sentsov, accusé de terrorisme et de trafic d'armes par la justice russe, qu'il avait condamné à 20 ans de camp en Russie. Comme le rappelle The Moscow Times, le journal indépendant lancé en 1992 pour la communauté étrangère russe et relayé par courrier international, Oleg Sentsov a chèrement payé son engagement en politique lors du soulèvement pro-européen du Maïdan à Kiev à l'hiver 2014. Peu après, il avait également déclaré qu'il n'acceptait pas l'annexion de la Crimée par Moscou. En 2018, le Parlement européen lui a décerné le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit. En mai de la même année, Oleg Sentsov avait entamé, on s'en souvient, une grève de la faim qu'il a interrompue au bout de 145 jours. Mais parmi les prisonniers relâchés par l'Ukraine figure Volodymyr Tsemakh, un chef militaire des séparatistes pro-russes de l'est du pays, le témoin clé et principal suspect dans le crash du vol MH17 abattu par un missile russe il y a 5 ans. Le Point cite les regrets du porte-parole pour le groupe d'enquête néerlandais. Nous aurions voulu qu'il soit disponible pour l'enquête. Dans les échos, Dominique Moisy se demande si l'on peut raisonnablement continuer à isoler la Russie, alors même qu'elle est incontournable sur de nombreux dossiers de l'Ukraine à la Syrie. Mais peut-on aussi, se rapprochant d'elle, comme le souhaite le président Macron, faire comme si elle ne cherchait pas de manière systématique à intervenir dans nos processus démocratiques? Et dans cette guerre d'influence sur les valeurs, il s'agit aussi de ne pas en rabattre sur les nôtres en faisant semblant d'ignorer l'existence d'une société civile qui demande à être écoutée en Russie. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Avec vous, Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques, bonjour Jacques Munier.
Au sommaire aujourd'hui, les tensions au Moyen-Orient vont-elles changer le cours, non pas des choses ou du monde, mais du pétrole.
Oui, que ce soit les tensions entre l'Iran et les États-Unis, très concrètes, notamment dans le détroit d'Ormuz où transite 20% de la production mondiale, mais aussi les tensions qui sous-tendent les relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite ou encore Israël. Ces affrontements ont des conséquences sur les cours du pétrole et les pays producteurs ont l'œil rivé sur les marchés pendant le Congrès mondial de l'énergie qui commence aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis, mais aussi à la réunion de l'OPEP jeudi. Bonjour Francis Perrin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin en studio. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et vous êtes chercheur associé au Policy Center for the New South à Rabat. La production au sein de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, elle a augmenté cet été de façon exponentielle, 80 000 barils par jour. Or, tout ça est très réglementé. Normalement, plus le pétrole est extrait en grande quantité et moins il est cher à l'achat. Qui en produit aujourd'hui plus qu'il ne devrait et sera donc réprimandé jeudi par les pays de l'OPEP ?
Il n'y aura pas forcément de réprimande, hein, parce que l'OPEP est un monde dans lequel les choses sont très feutrées, donc on se parle entre quatre murs, mais on ne se fait pas forcément énormément de reproches. Alors, selon certaines estimations, parce que on est sur des estimations, la production de l'OPEP pourrait augmenter effectivement au cours du mois d'août, et le principal pays concerné serait l'Irak. L'Irak, qui est le deuxième producteur de pétrole au sein de l'OPEP, derrière l'inévitable Arabie Saoudite, numéro un au sein de l'OPEP et troisième producteur mondial de pétrole après les États-Unis et la Russie.
Et alors pourquoi? C'est conjoncturel ou c'est stratégique?
Sur un mois, il est difficile de discerner une tendance. La production de l'OPEP, elle n'est pas stable, elle augmente, elle peut baisser certains mois. Donc il faut plus voir si sur plusieurs mois, on a une véritable tendance. Cela dit, l'Irak est un pays qui a une histoire particulièrement complexe depuis plusieurs dizaines d'années, avec des guerres, avec des invasions, avec des sanctions internationales très dures. Donc les dirigeants iraniens disent depuis des années, les dirigeants irakiens disent depuis des années, nous voulons reconstruire notre économie, nous voulons nous développer. Pour cela, nous avons besoin des recettes pétrolières, qui est l'essentiel des recettes de l'Irak. Et donc, nous voulons produire plus, exporter plus. Donc la montée en puissance de l'Irak est un phénomène important sur le marché pétrolier mondial depuis des années et ce n'est pas fini.
Montée en puissance qui pour l'instant, et encore une fois tout ça est conjoncturel, mais est compensée par une baisse de la production de l'Iran. L'Iran qui est sous le coup de sanctions américaines, le retour des sanctions américaines. Est-ce que l'Iran accuse une baisse de ce qu'il produit ou de ce qu'il déclare ?
Alors l'Iran effectivement voit sa production baisser et ses exportations pétrolières s'effondrer. Et l'Iran est un des pays membres de l'OPEP. Il y a un autre pays de l'OPEP dont la production et les exportations baissent beaucoup, c'est le Venezuela, qui continue à s'enfoncer dans la crise. Donc on a deux pays membres de l'OPEP, et non des moindres, qui, de façon involontaire, ce n'est pas eux qui ont décidé de produire moins et d'exporter moins, mais c'est le cas, et ça tire évidemment la production de l'OPEP vers le bas. Et puis il y a l'Arabie Saoudite, leader de fait au sein de l'OPEP, qui, elle, délibérément, produit moins que ce que l'OPEP l'autorise à produire pour conserver un équilibre du marché pétrolier mondial.
Conserver des prix relativement hauts, c'était le cas aussi l'année dernière d'un partenaire de l'OPEP qui n'en fait pas partie, c'est la Russie, qui elle s'était engagée à réduire sa production pour venir en aide à l'Iran, dont elle est une grande alliée. Alors Jacques Munier parlait de la Russie et la place centrale de la Russie aujourd'hui dans le monde. On dit aussi qu'elle est devenue un partenaire indispensable de l'OPEP jusqu'à en tirer les ficelles.
La Russie est le deuxième producteur mondial de pétrole derrière les États-Unis, devant l'Arabie Saoudite. Donc c'est un géant pétrolier mondial, c'est aussi un géant gazier mondial, le premier pays pour les réserves prouvées de gaz. Et depuis maintenant la fin 2016, et c'est une tendance intéressante dans la période actuelle, récente et actuelle, 10 pays non-OPEP, dont la Russie, coopèrent avec l'OPEP en vue d'essayer d'influer sur le marché pétrolier mondial et sur les prix du pétrole. Et donc la Russie et d'autres pays non-OPEP travaillent avec l'OPEP, dont l'Arabie Saoudite bien sûr, pour maîtriser leur production et veiller à ce que les prix restent à des niveaux intéressants pour les pays producteurs, dont la Russie, qui est fortement dépendante des recettes liées à l'exportation de pétrole et de gaz naturel.
Alors ce ratio entre surproduction de la part de certains pays et baisse de production de la part d'autres, c'est pas le seul facteur pour expliquer les variations des prix aujourd'hui. Il y a aussi, disons, l'ambiance générale, Francis Perrin. Ce qui s'est passé cet été dans le détroit d'Ormuz, des tankers pétroliers à raisonner ou saboter sans que personne ne revendique les attaques. De quelle manière et par quel mécanisme ça influence directement aujourd'hui les cours du pétrole ?
Vous l'avez rappelé en introduction de cette émission, le détroit d'Ormuz, c'est l'artère principale du commerce pétrolier mondial. Il y a à peu près 20 millions de barils qui transitent chaque jour par le détroit d'Ormuz. La production pétrolière mondiale est de 100 millions de barils par jour.
Donc ça fait vraiment 20%, quoi.
Donc ce qui se passe dans cette région a forcément un impact sur les marchés et les prix mondiaux du pétrole. Donc lorsqu'il y a tension dans une région comme celle-ci, et globalement la région du Moyen-Orient, qui représente à peu près la moitié des réserves pétrolières mondiales. Donc nous sommes dans une région, Moyen-Orient, Détroit d'Ormuz, Moyen-Orient, Golfe, Détroit d'Ormuz, une région absolument capitale, et tous les milieux pétroliers regardent de près ce qui se passe dans cette région, et quand on sent que la température monte, avec les incidents ou arraisonnements de pétroliers depuis le mois de mai de cette année, évidemment, cela exerce des pressions haussières sur les prix du pétrole. Mais la curiosité de la situation actuelle, c'est que finalement, les prix du pétrole n'ont pas beaucoup augmenté, alors que normalement, ils auraient dû augmenter, voire flamber, du fait de ces tensions dans et autour le détroit d'Ormuz, parce qu'il y a eu des facteurs baissiers qui sont venus compenser les facteurs haussiers liés à la géopolitique dans cette région du monde.
Donc les facteurs baissiers, c'est la surproduction.
Alors c'est essentiellement l'augmentation continue de la production pétrolière américaine grâce au pétrole dit non conventionnel, on parle souvent de pétrole de schiste, c'est le ralentissement de la croissance économique mondiale et ce sont les tensions commerciales très fortes sino-américaine, qui exerce là aussi une pression baissière sur les prix du pétrole.
Alors pourquoi ça exerce une pression baissière ? Donc on rappelle cette guerre sino-commerciale qui a vu chacun, chaque camp, imposer des taxes toujours plus hautes au cours de l'été, 10%, 25%, et alors, chacun se renvoyant la balle.
Le lien est très clair pour les marchés pétroliers. Guerre commerciale entre les deux puissances économiques les plus importantes de notre planète et de notre temps. Ça veut dire que le commerce mondial va souffrir. Il y a une relation entre le commerce mondial et la croissance économique mondiale. Donc la croissance économique mondiale va se ralentir et ça aura un impact négatif sur la consommation mondiale d'énergie et de pétrole. Et donc les marchés pétroliers, par anticipation, jouent les prix du pétrole à la baisse.
On n'a pas rappelé que le détroit d'Ormuz était ce petit espace maritime de 40 km de large avec l'Iran d'un côté au nord et Oman et les États-Unis et les Émirats arabes unis de l'autre côté. Les États-Unis aujourd'hui accusent les États-Unis cette fois accuse l'Iran d'être à la manœuvre de ces tensions dans le détroit d'Ormuz, d'être à l'origine de ces arraisonnages. Quel intérêt aujourd'hui aurait l'Iran à déstabiliser cette région-là ?
Alors, la responsabilité de l'Iran est claire parce que dans certains cas, ils l'ont revendiqué. Pas toujours, oui, oui. Mais dans certains cas.
Mais les États-Unis sont persuadés que c'était...
Oui, tout à fait. Alors, quelle est la stratégie iranienne ? Il faut se rappeler évidemment les sanctions américaines, le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien annoncé par le président Trump en mai 2018 et l'étau croissant des sanctions américaines depuis plus d'un an. L'Iran fait donc monter la tension dans la région du Golfe pour dire « si vous ne voulez pas tenir compte de moi, si vous voulez ne pas reconnaître mon importance en tant que puissance régionale, je vais vous montrer que je peux causer quelques problèmes, y compris au commerce pétrolier mondial, ce qui aura un impact sur l'économie mondiale. »
Ou tout simplement, l'Iran se venge de la saisie d'un de ses pétroliers dans les eaux de Gibraltar en juin.
Mais ça avait commencé avant.
Alors Francis Perrin, pour conclure cet entretien, je ne peux pas ne pas vous poser la question. C'est aujourd'hui le premier jour de ce congrès mondial de l'énergie qui a lieu tous les trois ans, je crois.
Tous les trois ans.
Est-ce que les pays producteurs de pétrole ont aujourd'hui amorcé une réflexion sur une transition énergétique? Est-ce que les énergies renouvelables sont abordées dans ce genre de réunion au sommet par les pays producteurs qu'on vient de citer?
Alors le Congrès mondial de l'énergie, ça porte sur toutes les énergies, pétrole et gaz bien sûr, mais énergie renouvelable nucléaire. Et les pays producteurs de pétrole, y compris les pays de l'OPEP, réfléchissent en termes de transition énergétique, mais certains plus que d'autres. Et parmi les pays de l'OPEP et parmi les pays de cette région, le pays hôte du Congrès mondial de l'énergie, les Émirats arabes unis, est dans la région le plus avancé en termes de diversification énergétique vers l'énergie solaire et vers l'énergie nucléaire, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont abandonner le pétrole ou le gaz naturel. C'est une diversification, ça ne veut pas dire qu'on remplace le pétrole et le gaz, mais
C'est pas la question pour eux pour l'instant.
C'est pas la question pour eux et ce ne le sera pas avant longtemps. Donc il ne s'agit pas de remplacer, mais de diversifier un portefeuille énergétique pour y faire entrer nucléaire et renouvelable, essentiellement énergie solaire.
Pour l'instant, c'est vrai que le Moyen-Orient a un potentiel de production de pétrole de 80 ans de production, je crois, à peu près. Merci beaucoup Francis Perrin d'avoir été avec nous ce matin.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque jour sur France Culture à 11h, Culture Monde, le magazine sans frontières, Florian Delorme.
Direction les forêts du monde. Alors que les récents incendies en Amazonie ont un peu réveillé les consciences, penchons-nous sur l'urgence à les protéger. Quels outils pour empêcher la déforestation? Pourquoi ne parvient-on pas à empêcher ce grignotage progressif de nos forêts? Et quel prix à payer pour les peuples autochtones qui y vivent? Outre les retombées économiques liées à leur exploitation, les forêts sont aussi parfois le repère privilégié de groupes djihadistes, de groupes rebelles qui y organisent leur lutte.
Culture Monde, de lundi à vendredi à 11h et sur franceculture.fr. France Culture présente l'exposition Berthe Morisot. Figure majeure de l'impressionnisme, Berthe Morisot se distingue parmi ses amis Monet, Degas ou Renoir par son audace artistique. L'exposition retrace le parcours exceptionnel d'une peintre qui, à rebours des usages de son temps et de son milieu, devient une figure essentielle des avant-gardes parisiennes de son époque. Musicale, expressive, ses œuvres invitent à une médiation mélancolique sur ses relations entre l'art et la vie. Berthe Morisot, jusqu'au 22 septembre, au Musée d'Orsay, à Paris. Un partenariat France Culture.
Vous écoutez France Culture, très bon lundi à tous et bonjour à vous, Guillaume Erner.
Et bonjour à vous, Julie Gacon, et bonjour à tous.
auditeurs, à vos boîtiers, parce que pour votre humeur du jour, Guillaume Erner, vous posez cette question, comment noter le billet qui va suivre?
Eh oui, Julie, vous savez qu'aujourd'hui, tout peut et même tout doit être noté. Votre appel au centre d'appel de votre fournisseur d'accès Internet, la réponse qu'on vous a fournie, par exemple, vaut-elle un 4 sur 5, le restaurant que vous avez choisi pour votre rendez-vous amoureux, mérite-t-il vraiment son 4,5 sur 5? Et le Uber qui vous a ramené seul comme un gros loser, allez-vous lui donner ses 5 étoiles réglementaires? Eh bien, ne cherchez pas. D'après le Financial Times du jour, ces ratings, autrement dit, ces notes ne sont pas fiables. Plus exactement, elles ne signifient pas grand-chose parce que les gens sont trop gentils, il n'y a pas assez de Bachar al-Assad, la vie serait plus simple si les individus n'hésitaient pas à être sévères et injustes. Oui, mais hélas, les démocraties sont donc remplies de gens trop mous, autant quelques sociopathes. Un sociopathe, vous savez, c'est un dingue habitué des réseaux sociaux. Autant quelques sociopathes vont vous faire un roman parce que la clim dans l'hôtel était bruyante, le ton rosé est arrivé mi-cuit. Autant la majorité des individus sont indéfectiblement bon, trop bon. La faute notamment à Uber, explique le Financial Times, c'est surprenant, qui a fait savoir qu'en dessous de 4,6 sur 5, un chauffeur serait viré. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens mettent toujours 5 étoiles. Une étude de l'université de Boston a ainsi examiné les notes de 600 000 Airbnb. Eh bien, catastrophe, la plupart avaient des notes entre 4,5 et 5 sur 5. Même les Airbnb installés sur un échangeur autoroutier, même les Airbnb qui abritent un élevage d'acariens, même les Airbnb où il faut choisir entre le chauffage et le micro-ondes, tous ces lieux obtiennent un 4,5 sur 5. Au pire, mais alors vraiment au pire, les internautes mettent un 3,5 sur 5, une note qui équivaut en réalité à un 2 sur 20. Donc, ne vous fiez pas aux notes, les gens sont trop gentils, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, notez les notants. Vous savez que Lénine se demandait qui allait former les formateurs aujourd'hui, il se demanderait comment évaluer les évaluateurs.